Léa Salamé, votre invitée ce matin, est journaliste et écrivain américain.
Bonjour Michael Wolff, merci d'être avec nous sur France Inter. Votre livre Fire and Fury, le feu et la fureur, a été vendu à plus d'un million d'exemplaires en quelques jours aux États-Unis. Il sort cette semaine en France. Donald Trump a essayé de l'interdire. Vous racontez la première année de Trump à la Maison-Blanche, c'est-à-dire selon vous, un an d'incompétence, de rivalité, de trahison, de coup de folie. Avant de nous dire tout le mal que vous pensez de Donald Trump, est-ce que vous pouvez nous en dire du bien? Vous qui l'avez observé, fréquenté, écouté, quelle qualité reconnaissez-vous au président des États-Unis?
He's a good salesman.
C'est un bon commercial.
Trump
sait vous flatter comme jamais vous n'avez été flatté.
Il
peut rajouter flatterie sur flatterie, il peut vous faire vous sentir comme si vous étiez le ou la meilleure, la plus extraordinaire personne qui soit.
Comment vous avez pu avoir accès au système Trump? Comment est-ce que vous avez eu porte ouverte à la Maison Blanche? C'est Trump lui-même qui vous a donné le feu vert?
Trump did. It was the president's with the president's approval.
Oui, tout s'est fait avec l'accord du président.
During the transition, and I said I'd like to come in.
Lors de la transition, je lui ai parlé et je lui ai dit je voudrais être observateur à la Maison Blanche. Il pensait que je cherchais un emploi parce qu'il n'avait aucune idée de ce que les gens font à la Maison Blanche. Donc, je lui ai dit non, moi je veux écrire un livre. Et à ce moment-là, ça ne l'a pas du tout intéressé, c'était un livre, pensez-vous. Donc, il a dit mais oui, pourquoi pas après tout. Et ça,
ça
a été une sorte de passeport pour moi qui m'a permis d'être observateur pendant 7 mois à la Maison Blanche.
7 mois où vous avez rencontré tous les conseillers, tout l'entourage, tous les proches de Donald Trump. Ce qui ressort à la lecture de votre livre, c'est qu'on a l'impression qu'au début, il y a un vrai sentiment positif, un vrai vent d'optimisme qui vous touche même à vous quand Trump arrive au pouvoir. Ça passe à la déception assez vite, et puis à un sentiment très négatif de tout le monde. Vous dites 100% des conseillers de Donald Trump pensent qu'il n'est pas fait pour le job aujourd'hui.
C'est tout à fait cela, oui. Quand je suis arrivé à la Maison Blanche, je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Voilà un être humain exceptionnel, peut-être que sa présence et son travail sera couronné de succès. Et je pense que tout son entourage avait le même sentiment. Après tout, il est devenu président des États-Unis, donc on part du principe que ça signifie quelque chose. Je fais partie des gens qui pensent cela. Il doit avoir quelques connaissances, quelques talents. Mais l'histoire de ce livre relate la façon dont ses proches, le cercle intérieur de ses proches, commencent à la Maison Blanche avec plein de confiance et d'optimisme. Et puis ensuite, ils sont dans la confusion, plein de désillusions, et puis au bout d'un moment, ils sont totalement incrédules de ce qu'ils voient.
Pourquoi, dans le grand débat des élites mondialisées depuis un an autour de Trump, sur la question est-ce qu'il est idiot ou est-ce qu'il est fou, est-ce que vous avez tranché?
Je ne sais pas s'il est fou. En tout cas, il est stupide. Et je peux même vous proposer une définition de la stupidité. Voilà un homme qui a résisté à l'information. Et là, je vous parle de l'entièreté de sa vie. Donc, il y a des informations qui l'ennuient, il y a des informations qui sont contraires à ses opinions, il y a des informations qu'il doit lire, mais il ne lit pas Trump. Donc, il a 72 ans et il ne dispose pas d'informations.
Il ne lit pas, vous dites, vous racontez que quand il arrive au pouvoir, on lui envoie un conseiller spécial pour lui expliquer les fondamentaux de la Constitution américaine et il ne tient que jusqu'au 4e amendement.
Oui, ce conseiller est avocat. Il m'a relaté cette histoire. Donc, on l'a fait venir pour qu'il explique les tenants et les aboutissants de la Constitution au président des États-Unis. Et cet homme-là n'a pu arriver qu'au 4e amendement parce que, tel qu'il le dit, Trump était le doigt dans la bouche, il avait les yeux en l'air comme ça, et puis il avait l'air de s'ennuyer terriblement.
C'est quoi la journée type du président américain à la Maison Blanche? Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump du matin jusqu'au soir?
Literally most of the day is spent watching television.
Il regarde la télévision. La plupart du temps, et la journée de travail est assez courte pour Trump. Il commence tard le matin et jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, on va dire 5 heures de travail, jamais plus de 6 heures en tout état de cause.
Et
il y a des réunions organisées par ses équipes, et là, il y a des délégations de gens qui arrivent dans le bureau ovale. Ces gens-là sont présélectionnés. Ce sont des gens qui viennent pour le flatter. C'est une sorte de rite. Monsieur le Président, nous vous admirons. Vous êtes le plus grand. Vous êtes le plus étonné, le plus exceptionnel. Et puis, lui-même dit la même chose. Vous êtes les meilleurs syndicalistes ou les meilleurs gens d'affaires au monde. Ils prennent plein de photos. Trump met tout cela en scène pour les photos.
Après le carnage en Floride, dans un lycée en Floride, il vient de dire qu'il était favorable à un renforcement du contrôle des ventes d'armes à feu. Est-ce que ça vous a étonné?
Ce que Trump dit est rarement lié à ce que Trump fait. Donc, il n'y a aucune circonstance qui permettrait de faire de lui quelqu'un qui propose un renforcement du contrôle des armes.
Quelle est l'importance de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner?
His daughter and her husband Jared Kushner.
Sa fille et son gendre Jared Kushner sont vraisemblablement deux des personnages les plus puissants de la Maison Blanche. Ils sont notamment responsables de l'anarchie qui règne à la Maison Blanche. En effet, on ne peut pas envisager une structure de gestion lorsque la fille et le gendre peuvent contrer n'importe quelle décision prise par qui que ce soit à la Maison-Blanche. Donc, ils font partie de l'équipe, certes, mais ils ont un statut particulier.
Est-ce que vous pensez que votre livre, qui a donc été vendu à des millions d'exemplaires aux États-Unis, tous les grands networks, les grandes chaînes de télévision ont parlé de votre livre, vous étiez partout. Est-ce que vous pensez que votre livre a fait douter au sein même des Trump fans? Est-ce qu'il y a eu un impact de votre livre dans son électorat? Ou est-ce qu'au fond, s'il y avait une élection présidentielle dimanche prochain, il serait réélu?
Je ne peux
pas vous dire quel serait le retentissement véritable de mon livre. En tout état de cause, le nombre d'exemplaires vendus, la réception dont bénéficie le livre montre que nous en sommes à un moment où l'empereur revêt de nouveaux vêtements. Autrement dit, les impressions non exprimées des gens, à savoir « il est stupide, il est peut-être fou », eh bien, ces sentiments-là sont désormais exprimés. On en parle de manière ouverte désormais depuis la parution du livre. Les journalistes politiques ont tendance à rechercher la rationalité, même chez un Donald Trump. Et je pense que mon livre permet de surmonter cela, parce qu'il n'y a pas de rationalité. Nous ne sommes pas dans le domaine de la rationalité. Nous sommes au-delà de ce que l'on tient pour la logique traditionnelle.
Fire and Fury, le feu et la fureur en français, sort cette semaine en librairie chez Robert Laffont. Merci beaucoup Michael Wolff d'avoir été avec nous.
Thank you.
Thank you.
Thank you Léa, et on vous retrouve vers 8h40.